Imaginez le monde et ses milliards d'habitants. Vous le voyez ? Très bien. Maintenant, zoomez un peu. Imaginez la France. Imaginez tous les départements. Mais n'en retenez qu'un. Le département 26, la Drôme. Dans la Drôme, imaginez une petite commune rurale, habitée par près de 500 habitants, vivant sur une superficie totale de 36,47 km². Les habitants et habitantes de la commune de Minglon sont appelés les Minglonais et les Minglonaises. Et figurez-vous qu'ils ont des histoires à raconter, des souvenirs à partager. Parce que ce souvenir, oui, c'est important. Les habitants, tous les habitants, même les enfants, ont participé à un projet d'archives sur la commune. Alors, dans cette production radiophonique, retrouvez les voix, les textes, des chansons et des témoignages, des histoires d'hier et d'aujourd'hui.
Salomé,
Clément.
Avez-vous rencontré village aussi charmant que ce petit hameau qu'on nomme Luzeran ? Ses habitants se fondent avec les estivants, assistant tous ensemble au beau soleil couchant. La journée, c'est le calme que souvent l'on envie, mais le soir, c'est la ruche qui éveille sans bruit. Tout près de la fontaine, les gens se réunissent. Sur la petite place, tout le monde se hisse. Les bancs sont occupés et même pris d'assaut, car à cette heure tardive, il fait souvent très beau. Les enfants ont des jeux, les langues se délient, l'âme de ce village se réveille la nuit. De jeunes cavaliers nous saluent en passant, et l'on entend au loin le pas de leur jument. Puis un bruit de clochette résonne dans la nuit, c'est le doux carillon d'un troupeau de brebis. Sous un ciel azuré, on aperçoit encore le bleu de ses lavandes et ses montagnes d'or. Luzeran restera le plus grand des pays, même si son berceau est vraiment bien petit. Amélie Sylvestre, souvenir d'un séjour dans le Diois, le 8 août 1980.
Moi je suis Danielle Lambert, j'habite à Perdier. J'ai passé mes premières années de 0 à 10 ans à Perdier, à l'école à Minglon. Je suis partie au collège. Ensuite, plus tard, j'ai vécu surtout à Grenoble. Et je suis revenue à Minglon et à Perdier il y a une dizaine d'années.
Moi, c'est Daniel Martin. Il n'y a pas une année où je ne sois pas venu ici, parce que c'est la maison familiale. Il y a peut-être juste pendant la guerre où j'ai passé plus de temps que des vacances. Hein. Mais sinon, je suis toujours venu ici à Perdier pendant toutes les vacances scolaires.
Et là, vous y habitez à l'année, par contre, en ce moment ?
Oui, depuis l'an 2000. Je me souviens des Allemands qui tiraient, toi tu t'en souviens pas, je sais pas, qui s'étaient mis au bout du chemin, qui tiraient sur Perdier. Le lendemain, ils sont venus avec les fusils comme ça. Ils sont allés dans, partout dans la maison, chercher des trucs. Je ne sais pas comment ils savaient, mais ils ont dû penser que c'était, il y avait un nid de résistance. Bon, papa était dans la résistance, mais il n'était pas là à ce moment-là. Il était à l'ange. Je me souviens très bien, une fois, je ne sais plus, c'était quatre bons hommes qui venaient de Rougier, là-bas, du chemin de Rougier, et qui sont passés par là. Et je sais qu'ils sont passés dans notre maison, parce qu'ils fuyaient, et ils ont sauté de l'autre côté, vers la glacière. Tu sais, quand tu montes une pièce là-haut, ils ont sauté du grenier, là, c'était la chambre des Tantillans, ils ont sauté de là, et ils sont partis dans la glacière. Donc, il y en avait...
Oui, bien sûr. On m'a parlé d'une voiture aussi qui avait été réquisitionnée.
Ah oui, c'est la voiture de Tantéva, ça.
Qui avait été prise par les Allemands, du coup, c'est ça hein? Qui avait été prise par les Allemands.
Non, ils ont voulu la prendre.
Ah, oui.
Mais Elle était au Bois d'An, bon, je ne sais plus dans quelle maison, c'est René, je crois que je le sais. Et ils sont allés la chercher, puis ils ont voulu la faire démarrer, mais je me souviens très bien, ils n'ont pas pu aller plus loin que par là-bas, sur la route, en face de Fernand Reynaud, là. Il l'a poussée, puis ils ont voulu la faire démarrer, puis elle ne partait pas.
Donc, du coup, ils l'ont laissée là.
Je ne sais pas où ils l'ont mise après.
Et je me souviens, ma mère racontait toujours qu'une fois, on était en train de se balancer avec, il y avait ta maman et qu'il y avait ta sœur amie Christiane, oui, ouais. Qui est décédée peu à peu, enfin, quand elle avait 4 ou 5 ans, je
oui,
crois.
Oui.
Et tout d'un coup, il y avait eu, on a entendu les Allemands qui arrivaient et ta mère était remontée au château.
C'est quand ils avaient tiré.
Moi, j'étais, on était vite rentrés.
Quand ils avaient tiré.
Oui, ouais. C'est le seul souvenir que ouais. J'ai de présence allemande. Après, dans la maison, j'ai même plus de souvenir d'autres discussions, de non.
Mais ce jour-là, moi j'étais là sur les
salles de Tanteva. C'était le même jour, oui.
Et toi et Ami, vous avez balancé là, et Mamie était en train de laver, je me souviens, un lit. Là, sur le truc. Et elle a vu, justement, elle a vu tout d'un coup, elle a entendu tirer, elle a vu une balle passer à ça des enfants, tu vois. J'ai vu ma mère courir, j'ai jamais vu ma mère courir comme ça. Et après, avec Christiane et moi, et puis, on est monté là-haut, on s'est comme fait dans la maison. C'était son grand-père et son père.
Oui, qui roulait le blé. D'ailleurs, je t'ai donné des photos à ce
avec
propos.
Avec un cheval qui tirait.
Voilà.
Oui.
Voilà.
J'ai bien le souvenir encore des... Ben si, en fait, le souvenir du paillet qui était là. Ouais. Donc, oui, peut-être dans les années 45, comme tu dis. Mais Daniel, il est un petit peu plus âgé que moi, si...
Ben oui, 3 ans. Jean Audon avait fait venir un tracteur, un gros tracteur Ford, et c'était avant 50.
Oui.
Il me semble que c'était avant 50. C'est difficile à se souvenir.
Il y avait des bœufs pour tracter. Et puis après, il y a eu les vaches pour le lait.
Ben, tu penses.
On appelait ça des bœufs quand c'était...
Oui, oui, bien sûr. Parce
quand
que...
ils tractaient, des vaches quand on les traillait. Alors.
Ouais. Et au Paya, c'était que des chevaux, je me souviens.
Oui,
Jean Audon, il devait avoir 3 ou 4 chevaux.
Mon père, mon grand-père avait 7 hectares.
D'accord.
Dans les années 1950, il me semble. Ma grand-mère, elle restait plutôt à la cuisine et c'était ma mère qui allait dans les champs avec mon grand-père et mon père.
C'est comme la batteuse aussi qui venait ici.
La batteuse venait ici aussi, oui.
Il y avait beaucoup de commerces un peu itinérants comme ça, le poissonnier ou, le boucher qui venait aussi.
Oui, oui. Il y en avait au moins 3. Alors, il y avait le casino qui passait un jour. Il y avait la mère d'Esmond qui passait un autre jour. Il y avait Monsieur Vanoni qui vendait des robes. L'huilerie Richard qui faisait une tournée pour l'huile. C'est une maison qui existe toujours. C'était toutes les semaines, tous les 15 jours. Et chacun avait un peu sa spécialité. Plus le boulanger qui passait 2 fois par semaine. Un boulanger un jour de la semaine et un autre
et c'est des boulanger. Gens de Minglon ou qui
c'était les boulangers, c'était de Châtillon, oui.
Ils faisaient du coup Minglon et d'autres communes ou ça
oui.
Juste,
ouais. Ah non, ils faisaient bon, ici, les Bois d'An, les Galants, Biala, Minglon. En plus, en hiver, il y avait un cinéma itinérant qui passait à l'école de l'école de Minglon. Et ma mère nous emmenait à pied. Le cinéma, c'était que l'hiver. Parce que l'été, les paysans ou les agriculteurs, ils n'avaient pas trop de temps pour aller au cinéma. Et on repartait à Minglon à pied.
Le soir après l'école.
Le soir après l'école, ça devait être à 8 heures. Et on revenait, je me souviens des nuits de pleine lune où il y avait de la neige et j'avais peur des ombres. Et voilà, c'est un bon souvenir. Moi, j'ai eu l'impression qu'on a eu toujours l'eau à la maison quand j'étais petite. Hein. Autrement,
Oui.
mon père allait la chercher quand il était jeune, il allait la chercher au puits qui était plus bas. Mais ça, c'est alors après, ça remonte dans les années 20. Rester plutôt là, on n'avait pas de moyens pour se déplacer. Si, quand on était après, quand j'étais adolescente, j'avais un vélo, alors bon, j'allais par là dans le coin. Mais plus petite, j'ai le souvenir d'être restée par là. Mon père n'avait pas de voiture, il avait juste une moto, mais bon, on n'allait pas se balader comme ça, non. Les prestations, c'était des travaux que les gens devaient à la mairie. Alors, par exemple, il fallait aller entretenir un fossé ou faire des gabions pour les torrents de la Grésière ou des choses comme ça.
Chacun devait un travail à la
Oui,
mairie. Ah,
c'est ce
d'accord.
qu'on appelait les prestations.
Il y avait les vagues.
Ouais, les vagues. C'était
Oui.
l'été en plus, du coup.
Oui.
Enfin, pendant les vacances,
Oui,
on était là
oui.
plutôt.
Ou alors il y avait aussi les ventes. Il y avait la
Oui.
vente de perdrix de chez Tante-là.
Vente protestante,
Voilà,
oui.
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 Il y avait ce genre de trucs. Puis bon, alors effectivement, pendant la vente ou les vagues, ils jouaient aux boules sur le chemin.
Oui. Les vogues, c'était le moment où on allait un peu plus que.
Ah
On
oui.
dépassait l'entre-soi, oui,
Ouais.
comme
Bon,
tu
on allait à
disais.
Manglon,
Oui. On
on
pouvait aller
allait
à
à celle des
Lustran.
Païens,
Il y avait la
il y avait
vogue
la
des
vogue des
Payas, il y avait la
Païens,
vogue des
il y a
Galants.
celle des Galants.
À chaque amour avait sa vogue, du coup. Oui,
Oui.
oui,
Il y avait le bal le samedi soir, le bal le dimanche. Samedi soir, le dimanche midi, le dimanche après-midi et le dimanche
oui. Samedi,
soir. À
oui.
ce moment-là, c'était plutôt le bal le dimanche. Dimanche
Oui.
midi, après-midi, dimanche soir. Et il y avait des orchestres qui venaient, ou un ou deux accordéonistes.
Il y a même eu un manège au
Ah
païen.
oui, il y avait des petits manèges. Dans les travaux qui étaient durs aussi, c'était les lavandes. Alors les lavandes, il y avait tout le champ de la glacière là, qui vient d'être. Il y avait encore des lavandins là, il y a 2 ans, mais qui avaient été plantés il y a 1 dizaine d'années, mais ils sont morts et il n'y a plus rien là actuellement sur le plateau de la
Mais parce qu'il
glacière.
y en a toujours eu de
Oui,
la lavande là-haut.
il y en a eu régulièrement et il y en avait également à la
À la
descente,
descente, oui.
en pente. Et quand on arrivait devant une lavande qu'il fallait couper avec la serpette, on se coupait, il y avait les guêpes, et qu'on voyait ces lignes de lavande devant, on se disait qu'on n'était pas encore sorti de l'auberge.
Quand ton chant s'élèvera, mon
Mon
chagrin
chagrin
disparaîtra,
disparaîtra
et
et
l'amour
l'amour
viendra
viendra
peut-être
peut-être
ce soir sous ma fenêtre. Reviens chanter, rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa. Il se transforma en un prince charmant qui devient le galant de la jolie princesse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, rossignol de mes amours, quand la lune brillera, lorsque minuit sonnera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin disparaîtra et l'amour viendra peut-être ce soir sous ma fenêtre. Reviens chanter, rossignol.
Je suis plus paysan, moi.
Ouais.
Eh ben.
Bah, c'est
très bien,
c'était.
Ah, mais au
Oui,
contraire,
parce que
j'aime.
quelqu'un
Même
commence.
quand je dis paysan, pour moi, c'est.
C'est
Valorisant.
Pour moi, c'est
Ah, ben
valorisant.
oui. Quand on demandait la profession des parents, on disait cultivateur, et ensuite, après, on a dit agriculteur.
Agriculteur.
Et on n'aurait pas dit paysan à l'époque.
Moi, j'étais dans une école d'agriculture, mais à l'intérieur d'un lycée.
Il y en avait beaucoup déjà.
À l'intérieur d'un lycée, donc on était
cultivateurs.
Les lycéens, c'était les fils de docteurs.
Oui. Non, là, c'était.
Et d'avocats et tout ça.
Quand j'ai commencé dans les années 70 en paysan, il y avait encore les anciens paysans qui avaient encore des chevaux. Oui. Pas beaucoup, mais ça commençait à se mécaniser, c'est-à-dire avoir les tracteurs, avoir les premières moissonneuses, batteuses, tout ça. Et dans les jeunes paysans, on était assez solidaires entre nous. Il y avait un bon contact et tout. Et c'est là où l'agriculture a commencé à se moderniser. Enfin, dans le Diwa, ça commençait là. Donc au début, on avait des petits tracteurs, des petits matériels. Mais on travaillait encore beaucoup manuellement, quoi. C'était physique, un peu pénible, mais on le faisait avec bon cœur, quoi. Chaque décennie, le modernisme a évolué. Et puis maintenant, on arrive à presque un extrême, quoi. À l'époque, par contre, les fermes, les paysans, ils avaient un peu de tout. Ils avaient ils avaient deux chèvres, mais ils avaient des brebis, mais peut-être 30-40 brebis. Ceux qui en avaient beaucoup, ils en avaient 60. On faisait un peu de vigne, ils faisaient leur vin, puis après on vendait un peu à la coopérative, la clairette, mais dans chaque ferme, ils vinifiaient leur vin, qui vendaient un peu à droite et à gauche, ou puis qui buvaient aussi, quoi. Parce qu'à l'époque, il y en a qui buvaient un peu plus que maintenant, quoi. Dans les années 80-90, les plantations, comme ça marche, c'était plus rentable, et on a arraché, on a replanté de la vigne qui était un peu plus valorisante à l'époque. Quoi.
C'était plus rentable à cause de la concurrence, du coup
ouais. Concurrence. Ouais. On avait des fruits qui étaient bons, qui avaient du goût, mais qui étaient plus petits et un peu plus... moins jolis d'aspect, mais qui étaient bien bons. Mais dans la vallée du Rhône, ils avaient des fruits deux fois plus gros, mais qui étaient bien arrosés, bien engrais, bien arrosés, donc qui étaient plus gros, mais qui était moins parfumé. Nos fruits qui étaient petits, qui étaient bons, ils se vendaient la moitié moins cher, parce qu'à l'époque, les gens, ils voulaient acheter des fruits qui étaient gros et qui n'avaient pas de taches et tout ça.
À quel moment vous avez planté davantage de noyers?
Les noyers, dans les années
80. Chaque année,
ouais, dans les années 80, trucs comme ça. Ouais. Ça s'est planté 60, 80, ça a dû se spécialiser un peu dans la vigne. Planter de la vigne et planter des noyers, des noyers carrément en plantation. Tant qu'avant, ils avaient des noyers, il y avait des champs, il y avait trois noyers là, alors qu'après, ça s'est planté carrément
en plantation.
Et de même, les vendanges, c'était bon, c'est encore à la même, c'était en famille, famille.
Oui, beaucoup en famille. Ouais.
Jusqu'à. En 80-90, non?
Ouais, même dans les années 2000, puis maintenant, bon, ça embauche des saisonniers, quoi, pour vendanger. Alors qu'à l'époque, ouais, on vendangeait. Soit en famille, soit il y avait des retraités du village, des anciens maçons ou anciens cantonniers, quand on avait besoin d'eux, et tant qu'ils venaient une semaine pour donner un coup de main. La population, elle a changé depuis 20 ou 30 ans, quoi. Les anciens, ils sont partis. Après, les maisons, elles se sont mises en location. Donc, ça a été des jeunes d'autres régions qui sont venus, qui ont fait un petit peu paysan, qui ont fait autre chose. Plus des locations, des maisons neuves qui sont montées, quoi.
Donc, une nouvelle population.
Une nouvelle population, ça a beaucoup... Ça a beaucoup évolué depuis 30 ans, quoi. Et à l'époque, il n'y avait plus que 11 gamins à l'école de Mingon. C'est là où ça s'est fait le regroupement avec Châtillon. Parce qu'on avait peur que l'école, disparaisse, quoi. Parce que comme il n'y avait que des anciens et il n'y avait plus de gamins, donc c'est là où ça s'est fait des lotissements, justement, pour amener des jeunes avec des petits-enfants, quoi. Non, mais la pétanque, c'est limité. Moi, ma passion, c'est un peu la pétanque. On avait un petit groupe de pétanque, mais ce n'était pas le principal. Bon, il y en a qui allaient au foot, il y en a qui allaient au rugby, il y avait la chasse et tout comme ça, quoi. Pas dans les années 70-80, ça, on bougeait. On avait les voitures, on bougeait. Mm-hmm. On, on restait pas sur place que sur.
Paroles de Nicole et Manette. À la claire fontaine. Ô gentille Amélie, au premier saut du lit, toujours bien pomponnée pour vivre sa journée.
Ô ma douce Amélie, amoureuse des fleurs, chaque matin les trie toujours avec douceur. Mais saviez-vous l'histoire du gâteau dégusté ? Il arriva un soir tout brisé et timbré. Mais il aurait un frère, un vrai petit jumeau, qui, pour ne pas déplaire, remplaça son frérot.
Oh, oh, la belle histoire de ces gâteaux jumeaux. Lezran, le 30 juillet 1980.
La Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, horrible joyeux. Quand les corps se confondent, comme le monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, c'est renfermé qu'on aime ses bras. On la murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment, car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue.
Je m'appelle M. Grisal Joël, j'habite quartier de Rafignac, à 1 km du village. Ma mère me trouve un petit emploi, un remplacement de facteur. Il y avait à l'époque deux facteurs au village. Quand ils prenaient des vacances, j'étais là pour les remplacer, à faire leur tournée. Il y avait à l'époque le garde champêtre à Luzerain. Garde champêtre qui passait dans le village, annonçait des fêtes de village, quoi. Des fêtes, des chiens errants, toutes sortes.
Vous étiez au courant de tout ce qui se passait. Hein,
tout ce qui se passait. Hein. Ouais. Et j'aimais ce contact parce que ils avaient l'habitude de payer le café à M. Laudet. Donc je buvais le café pareillement.
Et est-ce qu'ils te payaient l'agnol?
Ah, l'agnole, oui, de temps en temps, oui. Et le pastis maison, hein, le pastis fait avec la poudre, juste procuré, je ne sais comment. Et là, au bois d'un, j'avais ma cousine, Josée. Coco, marchand. Et puis les gens du pays, de mon âge, quoi, de Berrachard. Et chaque fois, une lettre, un journal, c'était un bon job.
Oui, mais même le facteur, on n'a presque plus de contact avec lui, quoi.
Et oui, le facteur aujourd'hui, on connaît le jour du calendrier encore.
C'est qu'il y a moins de contact avec lui.
Il y a moins de contact, ils n'ont pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas le temps. Mais le contact, il s'est créé quand même jusqu'à Liliane Ponson. Elle avait surtout au début de sa tournée, encore le temps d'aller chez la voisine, lui apporter de l'argent, prendre son courrier, quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer.
Ma mère, surtout ma mère, voulait que j'aie un emploi, une place, comme elle disait. Pour parler de la commune de Mingland, de Romain Brumain, des grands travaux qui étaient en de l'eau. Donc il y avait une remise en état des terrains, de sol, et des, la voirie, tous les chemins à refaire et fossés. Donc là, c'était un gros chantier, et j'ai démarré avec mon oncle là-dessus. Sur les photos, on peut voir les paysages d'avant et après. Bien sûr qu'on a détruit des haies à l'époque, parce que c'était comme ça. Il fallait tirer droit les fossés, assainir les terrains, et en même temps faire la voirie pour accéder. Après, on a continué
le travail.
Les travaux avec l'ONF, avec la DDE. Ouais. Et en 75, donc 68-75, j'étais inscrit au registre des métiers, donc j'étais apte à faire le remplacement de mon oncle, puisque et il y a eu un accident malheureux de mon oncle, qui a fait que moi, eh bien, j'ai pris la suite tout de suite.
Et une fois, tu as retrouvé un vestige romain que tu as déposé au musée.
Ah ben là, c'est surdit.
Ça, c'est surdit.
Ouais.
Une colonne.
Ouais.
Voilà.
Un menhir. Alors, c'est des travaux à Jaïence. Bon, aujourd'hui, c'est Jaïence. À l'époque, c'était coopérative viticole. De l'autre côté de la voie ferrée, parce que Jaïence, c'est côté ville, Lydie. Mais l'agrandissement a été fait dans les terrains après la voie ferrée. Donc il y avait des travaux de terrassement pour faire un agrandissement de bâtiment. Et là, on a découvert sur un sac enterré, bien sûr, des pierres éparses qu'on a récupérées, on a déposées chez moi sur un terrain et que j'ai mis en exposition, un petit peu comme ça. Et puis il passe un monsieur qui connaissait un peu le... Il revient avec un livre, il me dit, ce que tu as trouvé là, c'est néolithique. Il y a des choses qui m'ont échappé dans l'ancienneté. Quoi.
Ah ben bah, c'est évident, tu n'as pas pris, tu n'as pas écrit.
J'ai pas écrit, hein. J'aurais aimé faire un livre, mais je ne sais pas faire.
La fontaine de l'Usuron. Il fallait les voir à l'ouvrage, ces anciens gars de l'Usuron, qui pendant plus d'une semaine ont sauvé la vieille fontaine, qui agonissait lentement. Ils n'ont pas ménagé leur peine, et c'est sous un soleil de plomb qu'ils ont abreuvé la fontaine, avec leur sueur de leur fond. Cassant le béton et la pierre, ils ont avalé la poussière, mais pour retrouver leur enfance, ils ont fait don de leurs vacances, usé et plus que centenaire, meurtri par la rigueur des ans, notre fontaine, noble et fière, n'oubliera jamais ses enfants. Ceux qui voulaient la voir mourir ne pourront pas se réjouir. Elle a survécu, la fontaine, elle a quitté ses pansements, et avec un buste de reine, elle a retrouvé ses 20 ans. Amélie Sylvestre, l'Usuron, le 14 août 1986.
Un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme des soirs, près de sa bergère au doux regard, étoile des neiges, mon cœur amoureux. T'es prise au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Et là soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous, nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps? Étoile des neiges, Sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Alors il est parti pour la ville, et ira mon heure, il se fit sur les cheminées, dans le vent et la pluie, comme un petit diable noir de suie. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège ton amoureux. Ne perds pas courage, il te reviendra, et tu seras bien encore entre ses bras.
Voilà, il faut que je te raconte
ce que tu veux.
Que je me rappelle.
Voilà.
Et même ce que je ne me rappelle pas.
Par exemple.
On va commencer par la période 1930-1940. Dans le village, bon, et on, à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. Très peu de... Enfin, au Bois-d'Ain, il n'y avait pas de voiture. Les gens étaient déplacés en vélo. De plus, les routes n'étaient pas goudronnées. Et la route départementale 69, ça a été... Bon, sur la commune, la première qui a été goudronnée, elle a été goudronnée en 1937-38. Ça, je m'en rappelle parce qu'ils passaient une balayeuse et ça se levait une poussière, ce n'était pas possible. Il y avait deux boulangers, le boulanger d'en haut, c'était Odos.
Odos, oui, bien sûr.
Le père Odos qui était natif de Luzeran, Élie.
Élie, oui.
Et en bas, c'était Cluzel. À ce moment-là, bon, l'épicier, il vendait de la morue salée. Ah
oui, salée. Tu vois,
on mangeait que ça. De toute façon, c'était... Parce que comme on n'avait pas de frigo...
Il fallait le manger tout de suite.
Eh ouais.
C'est ça.
Parce que, bon, l'électricité au Bois-d'Ain, là, ça a été mis dans les années 1929-1930.
C'est ça.
Et le maire, c'était le Chagnard des Galants, il s'opposait à l'électricité, parce qu'il disait que c'est dangereux.
Et je ne sais pas si ce n'est pas lui qui a dit « De toute façon, elle n'arrivera jamais aux Galants parce que ça monte trop.
» Bon, ça doit être un truc comme ça.
Au tout début... Il y avait des familles qui mettaient qu'une seule lampe
pour
payer moins cher.
Ah ouais, Mais par contre, il n'y avait qu'une lampe de ville. Et avec un interrupteur, et les gens, tu vois, le soir, ils mettaient la lampe, la journée, ils arrêtaient.
D'accord. Et les travaux, là, comment ça a marché, les travaux dans les Bois-d'Ain?
Ben, ça se faisait à la main.
Ouais.
Il n'y avait pas de pelle mécanique, ni de tractopelle, ni que dalle. Hein. Chaque ouvrier, il devait faire 10 mètres de tranchée par jour.
Et à une profondeur de 60 mètres.
Ouais, un mètre.
Ah ouais, en 10 mètres de 1 mètre,
il fallait être costaud. Oui.
Et alors là, c'était en principe... Les gens qui faisaient ça, c'était des gens du coin, tu vois, qui
creusaient. Ouais. Tu as vu aussi l'installation des eaux usées, Clairos, les égouts.
Ouais.
Tu l'as vu, ça aussi.
Ouais. Ouais, mais là, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était dans les années...
56.
Ben, 14, c'est marié.
56.
56.
Il
n'y
a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps.
Je me souviens vaguement, c'était en 39. Ils ont fait remonter des troupes. Là. Ils sont passés par la route, là, la départementale. Ils remontaient sur la frontière italienne, là, à pied.
À pied ?
Ouais, avec ça, on gagne la guerre. Hein.
Jusqu'à Briançon.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et Barcelonnette.
Et ouais, ils allaient faire peur aux Italiens. On n'a jamais crevé de faim.
Voilà.
De toute façon, même avant, hein, parce que les gens, bon, on est dans toutes les maisons, bon, il y avait un troupeau de moutons, il y avait des chèvres, il y avait des cochons, des lapins, des poules, ben, des poules, puis canards et tout ce que tu voulais, quoi. Les gens, bon, même le boucher, et quand il passait dans le village, il ne faisait pas des merveilles. Hein, tu vois.
Il y avait beaucoup de réfugiés ?
Oh, oui, il y en avait, oui. Oh, il y en avait un peu partout dans la commune, parce que tu as eu, dans les années 36, tu as eu les réfugiés espagnols.
Est-ce qu'il y a eu des réfugiés juifs ou d'autres pays ?
Oui, ouais, ouais, il y en avait, oui, il y en a eu. Il y en avait, ben, il y en avait chez toi, ouais. Il y en avait au Payard.
Chez Martin.
Pendant la guerre, comme il n'y avait pas de très peu de carburant, les batteuses, ils les faisaient tourner à l'électricité.
Ah oui.
Ça a duré pendant toute la guerre, quoi. Ouais.
Et est-ce qu'il y a eu des événements militaires sur la commune ?
Là, il y a, au Bois d'Arles, les quand ils sont venus à Châtillon là. C'était en 44, ça.
Ah oui.
Au mois d'août, là, quand ils ont attaqué le Vercors, ils sont descendus par le col de Grimone, les gars et tout. Et ils sont venus un jour, ils sont venus au Bois d'Arles. Ils étaient renseignés parce qu'ils n'ont pas cherché.
Ah oui.
Ils ont ouvert les portes, ils ont sorti la carriole, ils ont parti.
Je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. La 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 la. Je pourrais tout quitter, je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. La 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 la.
Alors, il a été planté quand, cet arbre ? Eh bien, il a été planté en 1789 pour la fête de la République.
Celui qui est en haut de la glacière, c'est ça ?
Voilà, voilà. Et que vous revoyez là, voilà, et vous retrouvez le terrain, tout qui n'est pas cultivé, parce qu'il y avait quelques vignes. Voilà, cet arbre, il a longtemps été très important. Il était mort, et c'est moi qui ai arraché la dernière souche. Les arbres, c'est moi qui les ai plantés.
Ah ouais ?
Voilà, donc il y avait des vignes. Et après, c'était des taillis, totalement des pins et des taillis.
C'est la glacière.
Je les ai tous coupés, ouais. Et j'ai planté des chênes.
D'accord. Des chênes truffiers.
Oui. Mmh. Enfin, quand ils produisent.
Ouais. Et après, comment est-ce que tu coupes avec un chien ou...
Oui.
Ouais.
Oui.
Très bien. Super.
J'ai travaillé toute ma vie, mais j'ai fait d'autres métiers entre-temps.
Ouais, d'accord.
Voilà. Moi, j'ai travaillé avec le cheval.
D'accord.
Labouré avec le cheval. Et comme à cette période-là, c'était de suite après les guerres de 40, donc les gens n'étaient pas riches du tout. Donc, il fallait toujours trouver... chaque agriculteur avait un cheval. Alors, il fallait trouver quelqu'un d'autre qui avait un cheval pour pouvoir travailler avec deux chevaux. Donc, ça se situait avec... mon père avec son père, ils avaient à deux, ça leur faisait avoir un cheval.
Ou alors, après, lorsque son père pouvait pas ou quoi que ce soit, on servait sur mon oncle. À... Parce que lui aussi, il avait besoin de cheval.
Et ton oncle, lequel ?
René.
Ah oui.
Il y avait beaucoup d'entraide à cette période-là. Il y avait beaucoup d'entraide parce que c'était un besoin, puis c'était de suite après la guerre, donc les gens n'avaient pas les moyens. Alors la raison des vignes, donc il y en avait un peu et beaucoup. Pourquoi ? Parce que il y avait un débouché avec Luce, qui est pas loin, et tous les gens partaient vendre leur vin dans le Trièvre. Et les gens du Trièvre venaient ici pour acheter le vin, pour acheter les produits qu'ils n'avaient pas, puisque là-haut, c'est un pays de montagne. Et c'est comme ça que le vin a été important pour Châtillon, plus qu'Adie en réalité. Avec son cheval et un tonneau pour vendre son vin, et que lui, il était dans le tombereau, et puis que quand il revenait, ben, le cheval connaissait bien la route, parce que le père, hein, je ne sais plus. Voilà. Là, à cheval, il ne faut pas oublier qu'ils partaient le matin, ils allaient à la foire dans le Trièvre et ils rentraient dans la nuit.
Ah, ça fait une belle trotte.
Oui, moi, mon grand-père me racontait qu'à la naissance de mon père, eh ben, il était à la foire à Luce, à pied. Il allait à Luce, à la foire, il y allait à pied. On vient de là.
Ben ça, je m'en ai pas compte, ça.
Ben oui, mais c'est que les jeunes, vous avez le moteur.
Ah ben c'est que maintenant, ils savent plus parler.
Mais par exemple, ton père ou mes parents, ils faisaient un petit peu de vin.
Oui.
Après leur récolte, et toi, après, quand tu as pris la propriété, enfin quand tu as
travaillé, ouais, ben moi,
est-ce que tu en as fait?
Moi, oui, j'avais de la vigne. Ouais. À cette époque-là, j'avais 4-5 hectares.
Parce que tu as commencé jeune, oui. Toi, à travailler avec...
Ah ben moi, à 17 voilà, ans, mon père, il m'a dit, tu te débrouilles. Hein. Voilà. Ce qui avait amené la richesse ici, c'est la mine. Donc, ça avait fait venir des gens. Picon, il était l'ingénieur de la mine. Mm-hmm. Voilà.
Parce que la mine, elle a fermé en quelle année ?
Je ne sais pas.
1905, 1906.
Oui, voilà.
Ah, oui, oui.
Mon grand-père, il travaillait, il avait 13 ans. Quand il y a eu la coopérative de Die, on a planté de la clairette. Ça avait démarré bien. C'était... Après, mon père avait planté quelques arbres fruitiers, ce qui faisait que c'était... on avait un petit troupeau, voilà, il y avait de tout.
Oui.
Moi, j'ai planté des noyers. Voilà, c'était une petite exploitation, voilà, donc il y avait quand même vite des limites, quoi. Les noix, ben, ça a marché très longtemps, et maintenant ça commence à être terminé, là, maintenant. Il y a une évolution, même dans le vin, aujourd'hui, la clairette, les gens la consomment plus, très peu. Aujourd'hui, il y a moins de peine physique à travailler 10 hectares de vignes que deux quand, de suite après la guerre. L'évolution que nous avons connue, passer du cheval au tracteur, à l'informatique et maintenant à l'intelligence artificielle, fait qu'un laps de temps court, l'évolution a été extraordinaire. Mais moi, mon petit-fils qui travaille dans la banque, je lui dis bien, tu as trouvé un boulot, mais tu as pris la place de quelqu'un qui n'était plus assez compétent, mais toi, dans 10 ans, tu ne seras plus compétent du tout si tu ne te recycles pas au fur et à mesure. Mmh. Donc, il va falloir qu'il évolue très vite et de suite. Mais changer de boulot, mais changer de boulot, c'est extraordinaire. Faut pas avoir peur. Mmh. Moi, quand je suis revenu du service militaire, ça tombait bien, je me suis présenté conseiller municipal.
Première chose, élu, je vois Jean Isoire. Je lui dis, moi, il n'y a qu'une chose qu'il faut faire, c'est le remembrement.
Oui, oui.
Donc, il me dit, si c'est moi qui le propose, ça sera non. Parce que comme il avait déjà l'âge des personnes qui étaient là, il lui aurait dit non, non, non. Il dit, mais si c'est toi, je dirais, mais on est obligé, il est jeune, s'il veut rester. Je me rappelle, quand je suis revenu, dis donc, j'ai trouvé ça petit, j'étais en Algérie. Donc, quand tu reviens, tu as pris 2 ans à 20 ans. D'un adolescent, tu redeviens homme. Et quand tu arrives, tu dis, ben dis donc, c'est étroit ici. Il y avait des fêtes dans chaque village, et je pense que les gens de notre âge, qui avaient la cinquantaine, se côtoyaient beaucoup. Ça, c'est évident. Moins à Luc. Luc, c'était déjà pas les ennemis, mais... Mais c'est vrai qu'il y avait une société, pas clanique, c'était pas la Corse, mais déjà après la guerre, il y avait ceux qui avaient été dans la résistance et ceux qui n'y étaient pas. Je ramassais du tilleul, je ramassais de la lavande, je ramassais des escargots, j'étais autonome tout le temps. Voilà. Et ben, le dimanche, on allait couper les taillis pour pouvoir skier l'hiver. Avant, moi j'ai fait du ski là-haut avant qu'il y ait le premier téléski.
En quelle année en gros ?
Je ne me rappelle plus. Je devais avoir le lendemain que j'ai arrêté l'école, 16 ans. J'ai arrêté le ski à 75 ans. Ça rappelle toute sa jeunesse.
Oui, oui.
Ouais, ouais.
La mairie de Minglong vous invite à participer à l'exposition « Récits et photos anciennes ». Rendez-vous au temple de Minglong du samedi 27 mai au lundi 29 mai de 10h à 16h et le samedi 3 juin au dimanche 4 juin de 10h à 16h. Un projet imaginé depuis octobre 2022 par les bénévoles habitants et habitantes de la commune de Minglong et de Erdiwa, le 101.7, à Luc, en Diwa.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays d'Erdiwa. Il me semble que la misère serait moins pénible dans le Diwa. N'importe quoi.
Erdiwa, la radio de la joie.